carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Souvenirs d'Italie, d'artistes français du XVIIe au XIXe siècle, inspirés par la Bella Italia. Une exposition au Musée de la vie romantique à Paris du 29 septembre 2009 au 17 janvier 2010. Et nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois Daniel Marchesso, conservateur général du patrimoine et directeur de ce lieu magique qu'est le Musée de la vie romantique. Bonjour Daniel Marchesso.
Bonjour Christa Leuc.
L'Italie, au fil des siècles, a toujours émerveillé les yeux et inspiré les cœurs des artistes et des amoureux. Elle a aussi enflammé les chefs de guerre, qui sont devenus empereurs. Mais on va écouter tout de suite ce que dit Napoléon Ier de cette belle contrée qu'est l'Italie.
Tandis que le reste de l'Europe envie nos richesses, nos jeunes talents vont encore au sein de l'Italie échauffer leur génie à la vue de ces grands monuments et respirer l'enthousiasme qui les a enfantés. Napoléon Ier, vers 1805.
Voilà pour Napoléon, lui aussi fasciné par l'Italie. Donc, cher Daniel Marchesso, cette fois-ci, vous exposez dans vos murs quelques chefs-d'œuvre provenant du Petit Palais à Paris. Il s'invite chez vous en échange d'une exposition William Blake que vous aviez organisée dans leur espace en ce printemps 2009, printemps-été même. Et elle a fait l'objet, d'ailleurs il faut bien le souligner, d'une émission sur Canal Académie en français et en anglais que nos auditeurs trouveront bien sûr dans notre médiathèque. Alors je propose que nous entrions tout de suite dans le vif du sujet et on peut citer quelques noms bien représentatifs que vous voudrez bien nous présenter, si vous voulez bien. Nous pourrons ensuite suivre le parcours plus détaillé de l'exposition en bénéficiant de votre illustre éclairage. Donc commençons au XVIIe siècle avec le très grand Claude Gelée, dit le Lorrain. Vous avez réservé une large place à ce dessinateur et graveur d'exception. Donc Claude Gelée, c'est vraiment une merveille pure. Même dans les dessins, on voit ces magnifiques lumières.
Claude Gelée est naturellement l'un des artistes principaux du XVIIe et en particulier de cette exposition, puisque plus de 20 planches ont été réunies et un très très beau dessin et surtout une admirable peinture sur cuivre. Et il représente à lui seul un quart des chefs-d'œuvre du Petit Palais. C'est considérable. C'est d'autant plus considérable qu'il a été au fond le premier ou l'un des premiers à choisir l'Italie. Lui qui venait de sa Lorraine natale et qui est venu dans des conditions difficiles, encore adolescent, il s'est imposé avant, évidemment, son éternel rival Nicolas Poussin, puisqu'il est venu bien avant lui à Rome. Il y arrive entre 1615 et 1620 et il va y faire toute sa carrière. Et là, il va nous donner une série de peintures, d'œuvres sur papier et de gravures extraordinairement français, alors qu'il est en Italie et qu'il absorbe complètement la lumière italienne, la thématique italienne. L'ordonnancement, c'est le premier peut-être de ces artistes à avoir admirablement fondu les deux sensibilités, les deux cultures, les deux chromatismes en une seule et a finalement imposé des canons que l'on dirait aujourd'hui académique.
Il était très ami avec Nicolas Poussin.
Il a été très
parce
rival.
Parce que vous parlez de...
Très rival.
Rival, mais ami aussi, je crois.
Oui, enfin rival.
Disons rival, alors. Parce que vous parliez de canons académiques, je crois que Nicolas Poussin en est un bel exemple aussi.
Vous avez naturellement raison. L'amitié, vous savez, comme on dit, cher collègue et néanmoins ami. Cher collègue veut dire souvent cher ennemi et néanmoins ami. Bien. Et qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Le génie de Claude Gelée, dit le Lorrain, a été probablement, en particulier, d'imposer l'art du paysage dans la peinture française. Le paysage est une notion très française, mais elle vient de l'Italie. C'est-à-dire que les artistes français ont perçu la sublime beauté d'un lieu, d'un espace paysager et ont dès lors voulu l'inscrire sur la toile, sur la feuille de papier ou sur leur planche de cuivre. L'art du paysage vient de l'Italie.
Donc, Claude Gelée, il y a combien d'eau-fortes dans cette première salle, dans votre exposition?
Il y a plus d'une vingtaine d'eau-fortes, une très belle peinture et un admirable dessin. C'est un ensemble absolument considérable qui anticipe, j'aime à le dire, sur l'exposition Claude Gelée dit le Lorrain, qui aura lieu au Louvre dans 2 ans.
On peut peut-être en citer quand même quelques-uns qui sont vraiment remarquables, comme le départ pour les champs. Il aimait bien aussi illustrer la vie del popolino,
oui,
non?
Oui, c'est ça, c'est un petit peu la vie rustique,
oui.
La vie champêtre, la vie rurale. Il est lui-même d'origine modeste, comme l'on sait, puisqu'il était apprenti pâtissier, et il va naturellement avec les perspectives et l'architecture italienne et singulièrement romaine entrer dans une espèce de nobilitas dans sa composition dont il garde en souvenir ses propres racines et le popolo italien.
Oui,
et la vie du
oui.
popolo italien.
Et puis, il y a quelque chose d'absolument impressionnant, spectaculaire. Ce sont 13 planches des feux d'artifice. Alors, la tour ronde ou la tour carrée avec feux d'artifice. Et c'est complètement surréaliste. C'est vraiment fantastique et surréaliste.
Alors, les feux d'artifice sont une invention d'abord chinoise, puis ensuite italienne. Et les feux d'artifice ne seront découverts en France qu'après leur invention en Italie. Il est évident que l'imagination de Claude Lorrain, d'une part, et ses effets totalement débridés, magnétiques, fascinants pour l'époque, ont donné lieu à une transcription ou à une interprétation graphique totalement surréaliste, comme vous l'indiquez, qui appartient d'ailleurs à une inspiration que l'on trouve chez bien d'autres artistes, une inspiration fantastique que l'on peut trouver aussi bien chez Callot que chez Abraham Bosse, dans certaines de leurs figures, comme d'une façon bien antérieure, et évidemment d'une façon peut-être plus singulière et plus morbide encore chez Jérôme Bosch un siècle auparavant.
Ce sont les tours carrées éclatées et les tours rondes avec feux d'artifice.
Et n'oublions pas que dans le mot artifice, il y a le mot art, et que faire de l'art artificio, la naissance du mot artifice, dit bien toute cette dimension
artistique
et surréelle
du feu d'artifice.
Des feux d'artifice.
Oui. Et puis pour terminer le chapitre sur Claude Gelée, il y a encore quelque chose à remarquer, à noter, qui est le Liber Veritas, ce fameux recueil en 3 volumes de Claude Gelée, où il a reproduit à la plume et au lavis chacun de ses tableaux.
Alors ça, c'est particulièrement
très,
intéressant
très
parce que
précieux
ce...
précieux et rigoureux.
Tout à fait. Il a été le premier, peut-être, à vouloir pérenniser une œuvre dont il n'était plus maître dans la mesure où les œuvres partaient chez des commanditaires ou des clients, et à en garder à titre personnel, nous dirions aujourd'hui, l'archive de sa production. Et ce qu'il y a d'intéressant par ailleurs, c'est que ce Liber Veritatis a été au XVIIIe siècle gravé, mais gravé en Angleterre, puisque ce Liber Veritatis a finalement été conservé en Angleterre. Mais il y a eu une édition à la fin du XVIIIe siècle de l'ensemble de ces gravures d'après les aquarelles originales de Claude Lorrain.
Voilà un long chapitre et vraiment mérité sur l'ami Claude Gelée. Et donc ensuite, nous passons au XVIIIe siècle avec Fragonard, Vernet, Vien et bien sûr, surtout Hubert Robert, à qui est consacrée une salle particulière avec un décor monumental de je ne sais combien de panneaux.
8 panneaux.
8 panneaux. Et sans doute, c'est la pièce maîtresse de l'exposition. Mais si vous voulez bien, on réservera une place d'honneur à la fin de notre entretien parce que vraiment, il mérite une attention particulière. Ça, c'était le XVIIIe siècle. Et au XIXe, alors il y a pléthore aussi au XIXe siècle. Les romantiques français sont nombreux à visiter l'Italie ou pour le prix de Rome ou par plaisir personnel, évidemment attirés qu'ils sont par cette Arcadie éternelle. Parce que pour les Français, l'Italie, c'est toujours l'Antiquité, l'Arcadie, et c'est pour ça qu'ils sont inspirés particulièrement par tout ce qui est mythologique, les monuments antiques, outre évidemment les lumières, les fabuleuses lumières.
Mais vous savez, l'Académie française, comme l'Académie de peinture à l'époque, l'Académie royale, reçoit des immortels. Et cette immortalité, elle trouve peut-être mieux qu'ailleurs, en Italie, son extraordinaire pérennité. C'est-à-dire que comment ne pas croire à l'immortalité lorsqu'au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, on découvre la permanence de cet art antique qui va nourrir une observation, une religion, une esthétique et une iconographie extraordinaire. Donc cette notion de l'immortalité, elle est naturellement d'ordre spirituel et religieux, cela va sans dire. Mais l'Italie cristallise peut-être dans ses reliques, dans ses œuvres que chacun peut admirer, au fond, la trace essentielle de ce qui s'est passé 15 siècles ou 20 siècles auparavant. Donc comment ne pas croire à l'immortalité ? Et comment l'Académie ne peut-elle pas, au fond, se porter presque la garante de cette immortalité alors que chacun de ses lauréats va s'en inspirer, va s'y nourrir, va y étudier pour donner par ailleurs, comme une sorte de sublime fructification, les chefs-d'œuvre qui nous sont présentés aujourd'hui.
Là, vous parliez donc des lauréats du prix de Rome, et ce n'est pas étonnant que ce soit dans la ville éternelle, Rome en l'occurrence, qu'on ait créé l'Académie de France à Rome, aujourd'hui la Villa Médicis. On n'a pas trop encore cité les noms de ces fameux romantiques français qui sont donc dans votre exposition, qu'on peut y admirer. On peut citer Granet, des magnifiques aquarelles aussi de Granet. Prudhon, Corot, Ingres, ou encore Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris. Donc vraiment un florilège magnifique. Mais si vous voulez bien, Daniel Marchessault, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, je vous propose une courte pause musicale, et puisqu'il était question de cette fameuse Académie de France à Rome, il n'y a pas que les peintres et des graveurs et des sculpteurs qui ont eu l'honneur de résider dans cette magnifique villa. Enfin, d'abord la Villa Mancini et après la Villa Médicis. Mais il y a eu également des musiciens, dont par exemple Berlioz.
J'éprouve une sensation de bonheur de mon voyage en Italie que je n'ai trouvée nulle part. Tous les ressorts de mon âme ont été nourris et fortifiés. Je me sens rajeuni. Les gens secs ne peuvent plus rien pour moi. Je connais la terre où on respire cet air céleste, dont ils nient l'existence. Je suis de fer pour eux. Stendhal, dans Rome, Naples et Florence, 1817.
Nous avons toujours le grand plaisir d'être avec Daniel Marchessault, le commissaire de cette belle exposition « Souvenirs d'Italie » au Musée de la vie romantique à Paris. Mais nous sommes aussi en Italie, grâce à quelques chefs-d'œuvre d'artistes français que la lumière de cette terre mythique a su inspirer. Donc Daniel Marchessault, nous passons de la première salle que vous avez largement évoquée, qui est dédiée à Claude Gelée, dit le Lorrain, avec quelques magnifiques eaux-fortes. Si vous voulez bien, on va poursuivre notre visite. Et avant de poser notre regard sur quelques artistes du 18e, qui sont présents donc dans votre exposition, nous aimerions vous entendre, Daniel Marchessault, évoquer un tableau assez spectaculaire, une vue de la place Saint-Pierre à Rome lors de l'intronisation du pape Clément VIII en 1592. par un certain Louis de Collery, qui a vécu de 1580 à 1621.
Oui, alors, la peinture de Collery qui est exécutée sur cuivre, je tiens à le préciser, c'est un petit tableau qui est extraordinairement dense et riche. On n'est pas du tout sûr que Collery soit allé à Rome. C'est assez extraordinaire, on n'en est pas sûr. Il était d'origine probablement flamande. Et il y a chez lui à la fois une composition qui traduit bien une facture française, dans l'ordonnancement, et puis il y a ce sens de l'anecdote extraordinaire, puisque il rapporte, il rend compte de cette cérémonie d'intronisation du pape sur la place Saint-Pierre. La place Saint-Pierre, évidemment, ne ressemble plus du tout aujourd'hui à ce qu'elle était à l'époque. On voit d'ailleurs à la droite du tableau les ruines de l'ancien forum et donc du Colisée. Et ce tableau est une évocation tout à fait extraordinaire, mais dans le goût français, c'est la raison pour laquelle on n'est pas du tout sûr qu'il soit effectivement allé à Rome, parce que la couleur, la lumière et même les costumes n'évoquent pas spécialement l'Italie. Mais il y avait à l'époque un grand commerce d'estampes et de dessins sur le journalisme de l'époque, et cette chronique-là d'un moment d'exception dans la gestion officielle de ce qu'était la papauté a donné lieu à cette peinture d'une très très grande qualité. On se rend bien compte là encore du faste et de l'animation de cette foule grouillante romaine.
Oui, il y a une infinité de personnages.
Voilà, une infinité de personnages, et il y a là le goût à la fois de l'échelle, de la proportion, de la perspective de cette place, avec naturellement la majesté de cette place Saint-Pierre.
Oui, alors, ça c'était Louis de Collery avec son intronisation du pape Clément VIII en 1592. Mais voyons maintenant quelques artistes du XVIIIe qui se trouvent donc dans votre exposition. Nous pouvons accorder vraiment une admiration absolue à certains paysages d'Italie. Comme, prenons un exemple, les cascatelles de Tivoli, par exemple, de Vernet, Claude-Joseph Vernet.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette exposition, c'est qu'ont été réunies deux cascatelles de Tivoli. Et deux versions, et évidemment celle en particulier de Vernet, est assez étonnante parce qu'elle date, de la première moitié du XVIIIe siècle. Et on est au début de cette grande mode du grand tour. Le grand tour est une expression française. Et pourtant, elle s'applique essentiellement, ou elle a été très longtemps attribuée aux innombrables voyageurs d'origine britannique, the Grand Tour. C'est assez chic. C'est à l'époque, comme le dit M. Fumaroli, lorsque l'Europe parlait français, le mot Grand Tour avait cette double acception et était très signifiante et très significative de ce qu'était cette passion nourricière cherchée dans l'Italie. Et Tivoli, naturellement, a été et est toujours, aujourd'hui encore, bien entendu, l'un des très grands sujets d'inspiration que l'on trouve là aussi bien traité par Vernet que, beaucoup plus tard, une génération plus tard, par Hubert Robert. Et dans les cascatelles de Joseph Vernet, il y a un sentiment complètement 18e, d'intimité avec des ruines romaines en haut, l'aqueduc au fond, une scène de composition très charmante et très bucolique sur le premier plan du tableau, et puis quelque chose de beaucoup plus déjà pré-romantique chez Hubert Robert, un brio, une exacerbation des folies de la nature qui va anticiper sur le romantisme, et tel que d'ailleurs les romantiques allemands l'avaient déjà introduit en peinture, sur ces forces telluriques qui peuvent habiter la nature. Donc les deux tableaux en comparaison sont particulièrement significatifs.
Et puis il y a d'autres paysages de la campagne romaine d'un Joseph Marie Vien, ou encore le fameux abbé de Saint-Nom, bien sûr, on ne peut pas ne pas le citer.
Et puis l'admirable paysage de Montpercier, qui est un paysage, au fond, qui reprend une parabole antique. On a longtemps pensé que ça pouvait être, évidemment, une illustration de Moïse sauvé des eaux. En fait, pas du tout, c'est une légende beaucoup plus subtile et moins connue qui vient d'un texte d'Héliodore tiré des Éthiopiques, où effectivement un bébé est sauvé des eaux. et danse avec cette ruine imaginaire, gauche, ce temple, ces colonnades, avec évidemment ces chapiteaux corinthiens absolument superbes, cette architrave qui rythme la composition à gauche, à laquelle répond un très bel arbre admirablement peint d'une façon beaucoup plus lyrique, et puis l'opposition entre le premier plan d'eau dans lequel se reflète le ciel qui est en haut, avec les habitations plus ou moins en ruine et habitées par la végétation au centre. C'est un tableau qui est particulièrement attachant, spectaculaire et au fond très monumental dans sa vision, dans sa perception de l'espace.
Oui, ça c'était donc
Henri Mauperché. C'est un tableau qui est de la fin du XVIIe et qui anticipe complètement sur le XVIIIe.
Et puis, parlant du XVIIIe, on ne peut pas passer devant Fragonard sans s'y arrêter. Fragonard, qui a fait particulièrement deux voyages en Italie et qui nous a laissé des empreintes absolument magnifiques.
Oui, alors Fragonard va ici tout de même s'effacer devant le grand maître présent dans cette exposition qui est Hubert Robert. Hubert Robert qui est probablement le grand triomphateur de cette exposition, Souvenir d'Italie, puisque c'est lui qui a imposé dans les lieux du musée de la vie romantique cette vision tout à fait traduite, transcrite pour l'imaginaire, à travers probablement ce qui reste aujourd'hui l'un de ces décors monumentaux les plus importants peut-être que celui du Metropolitan Museum ou que l'ensemble des quatre tableaux à peu près contemporains qui se trouvent à l'Art Institute de Chicago, cet ensemble qu'il a fait pour l'écrivain Caron de Beaumarchais. Jean-Pierre de Beaumarchais disait lors du vernissage combien il était ému de retrouver cet ensemble de huit panneaux qui sont vus pour la première fois au musée de la vie romantique, ils sont réunis pour la première fois. 6 de ces panneaux sont actuellement conservés à l'Hôtel de Ville de Paris, où ils sont accrochés depuis le début du XIXe siècle. Les deux autres panneaux étant accrochés depuis le début du XXe siècle au musée du Petit Palais. Et là, c'est une extraordinaire découverte de voir ces 8 panneaux ensemble, qui sont à la fois l'accomplissement d'un maître du paysage, celui naturellement de celui qu'on appelait le maître des ruines, et les ruines étant ici confortées par les très grandes statues antiques, ces fameuses statues immortelles qui ont été les grands motifs d'inspiration du XVIIIe siècle, et singulièrement d'Hubert Robert, avec aussi bien l'Apollon du Belvédère que le Laocoon, que la Vénus Médicis, tout ce qui sont les grands archétypes que l'on allait découvrir en peinture sous le pinceau d'Hubert Robert avant même que des versions sculptées n'arrivent au Louvre dans les chariots de chefs-d'œuvre rapportés d'Italie par Napoléon et qui vont donc entrer au Louvre.
Par Vivandeneau.
Oui, mais c'était
un petit groupe d'amis, non, autour de l'abbé de Saint-Nom, Hubert Robert, Vernet, n'est-ce pas?
Cette émulation a été probablement extraordinairement fructueuse, nourricière, et c'est vrai que l'abbé de Saint-Nom, par les ouvrages dont il avait commandé les planches à un certain nombre de ses artistes, a permis une extraordinaire diffusion de ce qu'a été la vision arcadienne de l'Italie à l'époque.
Oui, il faut signaler quand même son fameux, très célèbre voyage pittoresque aux descriptions du royaume de Naples et de Sicile, qui est un ouvrage vraiment impressionnant de 5 volumes, comprenant par exemple, j'ai lu quelque chose comme 376 gravures, plus des peintures, évidemment. Tous ses amis, disons quand même, ont collaboré à ces ouvrages. Les poètes, je crois Vivandeneau d'ailleurs, a substantiellement contribué, n'est-ce pas?
Contribué à l'ouvrage.
À cet ouvrage. Et puis il y a eu donc beaucoup d'artistes qui ont contribué également par les dessins. C'était un personnage assez central, non, à cette époque, à Rome?
L'abbé de Saint-Nom a été probablement l'une des grandes figures de l'époque, ça c'est sûr.
Voilà, nous venons d'écouter un extrait de Orphée et Eurydice, célèbre opéra de Christoph Willibald Gluck, ou Gluck en français, avec cet air fameux « Che farò senza Eurydice » chanté par le contre-ténor Andreas Scholl. C'est une merveille. Pourquoi cet extrait de musique? Gluck était le compositeur préféré de
Jean-Auguste Dominique Ingres.
Et c'est une citation qui se trouve dans votre exposition, qui en témoigne.
Monsieur Ingres m'avait prise en amitié. Il était fou de musique. Il aimait passionnément Haydn, Mozart, Beethoven, Gluck surtout, qui par la noblesse et l'accent pathétique de son style lui semblait un grec, un descendant d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide. Monsieur Ingres jouait du violon. Ce n'était pas un exécutant, moins encore un virtuose. Mais il avait, dans sa jeunesse, fait sa partie de violon dans l'orchestre du théâtre de sa ville natale, Montauban, où il avait pris part à l'exécution des opéras de Gluck. Charles Gounod, dans Mémoire d'un artiste, 1896.
C'était donc pour le plaisir d'écouter Gluck et ça nous amène tout de suite, tout droit, à Jean-Auguste Dominique Ingres, qui est représenté bien sûr dans votre exposition.
Bien sûr.
Et que vous aimez bien, je crois.
Bien sûr, puisque Ingres est naturellement le plus célèbre des directeurs de l'Académie de France à Rome. Il va s'installer d'abord comme lauréat à la Villa Médicis, qui est le nouveau siège à partir de 1803, le nouveau siège de l'Académie royale, de l'Académie de peinture qui n'est plus royale à Rome.
Donc par Napoléon, ça a été
racheté. Par Napoléon, on a quitté
racheté
le palais Mancini. Napoléon rachète cette Villa Médicis. Il va donc y séjourner pendant plusieurs années. Il va rester ensuite à Rome tellement il en est content. Et il va s'illustrer là, entre autres, comme l'un des très grands portraitistes de son temps. Il va revenir à Paris à partir de 1820 et il va repartir comme directeur de l'Académie, cette fois-ci donc d'une façon très officielle, ne considérant qu'il n'était pas aussi bien reçu qu'il l'aurait souhaité à Paris. Et il va être clairement le plus grand directeur et le plus grand directeur qui va non seulement encourager la musique de ses amis compositeurs, mais celle de ses jeunes lauréats. Et il y a dans l'exposition le portrait d'un jeune musicien que vous venez de citer, qui est le portrait de Charles Gounod, qui était en effet l'un des élèves d'Ingres et l'un de ses jeunes élèves préférés, qui, ayant reçu le prix de Rome, va être ensuite le grand compositeur que l'on sait. Donc Ingres avait une passion pour Gluck, mais il a découvert en Gounod un immense talent, et ce talent, évidemment, s'est confirmé
Jean
bien après.
Auguste Dominique Ingres.
Et qui puis est illustré ici par une sublime feuille,
ouais,
de deux odalisques, qui est probablement en effet l'une des pages les plus émotives, ouais, de cette collection du musée du Petit Palais.
Oui, donc c'est une étude pour l'odalisque à l'esclave, oui, oui.
Celle dont Adrien Goetz nous a expliqué qu'elle avait peut-être disparu dans un de ses derniers livres.
Ah bon, bien. Mais je peux signaler à nos auditeurs qu'il y a encore aujourd'hui l'atelier Ingres dans la Villa Médicis, mais qu'on ne peut malheureusement pas visiter parce qu'il est occupé par un pensionnaire, par un heureux pensionnaire. Donc nous sommes au 19e siècle. Et à part Ingres, nous avons vraiment pléthore d'artistes remarquables. Je pense à Giraudet, Anne-Louis Giraudet-Triozon, avec une magnifique sanguine, ou alors Prudhon, François-Marius Granet. Vous ne voulez pas nous parler un petit peu
admirable
de Granet.
Admirable Granet, qui est représenté ici par un ensemble d'aquarelles tout à fait extraordinaire. Il est évident que tous les amoureux de Granet connaissent le musée d'Aix-en-Provence, mais il y a dans les collections du Petit Palais une sélection de pages exécutées sur le motif qui sont tout à fait extraordinaires, qui représentent en particulier des architectures habitées et en particulier des architectures religieuses. Et il y a chez Granet un sens de la dramaturgie, aussi bien par l'encre de Chine que par les rouleaux d'aquarelles, dans, sous ces caves voûtées, quelque chose qui la montre bien sa quête à la fois spirituelle et sa quête architecturale. Dans ces miniatures qui pourraient appartenir à des notes de voyage, il y a tout d'un coup une dimension historique qui mérite d'être souligné et que cette exposition, je crois, met en valeur.
C'est vraiment une découverte.
C'est une découverte absolue.
Et ce clair-obscur qu'il réussit à rendre dans les catacombes de Rome, n'est-ce pas, avec des lumières qui viennent dans ces caves voûtées, comme vous venez de l'évoquer, c'est vraiment assez remarquable. Et malheureusement, il n'est pas très, très connu. Enfin, peut-être maintenant un peu plus, parce qu'il y avait une belle exposition Granet, précisément à la Villa Médicis, il n'y a pas très longtemps.
Mais Granet a ce sens de la mise en espace d'une page, en général de petite dimension dans les œuvres qui sont montrées ici, qui vibre de vie par la présence de ces religieux qui sont là dans ces monastères, ces moines qui sont habités par une foi extraordinaire. Et cet univers, au fond, très nocturne, très souterrain, est aussi une vraie découverte de ce que peut être, quelque part, j'y reviens, une forme d'immortalité.
On est toujours parmi les académiciens et les immortels.
Le veut-on ou ne le veut-on pas? Nous y sommes toujours.
Écoutez, là, on arrive à la fin de l'exposition. Nous avons parlé tout à l'heure de cette magnifique salle qui clôt l'exposition proprement dite, c'est-à-dire cette fameuse salle Hubert-Robert dont vous avez longuement parlé. Alors écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand, grand merci, Daniel Marchesso, pour ce voyage en Italie.
Merci beaucoup.
Tout nous rapporterons de magnifiques souvenirs, vraiment, souvenirs d'Italie, d'artistes français inspirés par cette terre de lumière. Et nous pouvons encore les admirer dans votre musée de la vie romantique à Paris jusqu'au 17 janvier 2010. Et puis, il faut absolument indiquer l'extraordinaire qualité du catalogue. J'insiste toujours parce que tous vos catalogues du Musée de la vie romantique sont d'une qualité vraiment remarquable. Et donc, nos auditeurs trouveront toutes les références, bien sûr, sur notre page Internet. Merci et à très bientôt, j'espère, Daniel Marchesso.
Merci infiniment.